gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bienvenue dans la causerie, c'est ici Disney, parce que c'est les lumières et on est lyonnais. Oui, voilà, pardon, mais j'avais envie de chanter une connerie avant démarrant cette émission de la causerie, comme tous les dimanches à 22h sur Radio Canu avec Clara la technique.
Bonsoir.
Et Jean-Yves qui est là.
Bonsoir, et Fab qui ouvre
bonsoir.
En musique cette causerie.
Ah, j'en peux plus de cette fête des lumières, j'en peux plus vraiment, ça me sort par les yeux. Ça transforme Lyon en immense Disneyland marchandisé pendant 5 jours. Ça bouffe autant de CO2 à mon avis que la ville de Lyon en un an. Et tout ça pourquoi? Pour que des gens puissent regarder des lumières sur des murs, j'en peux plus. Voilà, et juste, j'avais envie de dire que nous ne sommes pas Mickey, nous les Lyonnais, et on en a un peu marre un petit peu d'être réduit à être un centre commercial géant pendant 5 jours.
Pas les Lyonnais, voilà. Peut-être pas, alors déjà t'es pas...
Enfin
Lyonnais.
Moi, voilà, je suis l'Urbanais moi.
Oui, mais justement, voilà. Donc déjà tu subis pas autant que les Lyonnais.
Ah ouais, je plains ceux qui habitent dans les coins où il y a...
Mais ce qu'il faudrait quand même pas oublier aussi, je trouve que ça démontre un peu ça, pardon, après on va vraiment parler causer, mais je trouve que ça démontre aussi, finalement, le peu d'interaction qu'on a sur notre réel en fait quoi.
Ah bah
c'est-à-dire
oui.
Qu'on a délégué à des politiciens qui finalement font un truc qui je suis pas sûr qu'il soit soutenu par tout le monde quoi.
Ah non, mais
c'est vraiment chiant.
Puis là ça devient vraiment n'importe quoi, voilà. Mais en tout cas, j'ai rien contre les touristes qui viennent nous voir, mais venez nous voir pour autre chose, on fait des trucs sympas à Lyon. Venez, c'est bien aussi. Voilà, en tout cas, c'était juste mon petit coup de gueule à demi parce que c'était un peu fatigant cette fête des lumières, mais on va quand même faire une causerie. Comme d'habitude.
Oui, on va continuer de râler après ce monde de merde. Mais il faut bien faire un
et constat. De rigoler faut, aussi un petit peu.
Il faut toujours faire des constats pour pouvoir oser espérer changer les choses.
Bah oui, toujours.
C'est toi, Fab, hein, tu es à fond là, donc reste sur ta lancée. Et on va encore plomber l'ambiance donc.
Non, pas la plomber. Mais on va parler de quelque chose qui est quand même intéressant.
C'est ça, et tu nous emmènes ce soir au Venezuela et.
Ouais.
Guyana.
Ouais, voilà, exactement. Donc, imaginez, l'Allemagne déciderait de faire une loi qui l'autorise à annexer l'Alsace et la Lorraine et un référendum pour que cela ait lieu. Elle déciderait d'y faire ce qu'elle veut et d'en exploiter les sous-sols, le tout parce qu'à une époque de l'histoire, la frontière n'était pas le Rhin. Eh ben, on trouverait tout cela un peu gonflé et totalement hors de propos. On est bien d'accord. Et nous y verrions le spectre d'une guerre à venir, hein, comme par le passé, parce qu'il y a quand même eu deux guerres qui étaient un peu liées à ça, quand même. Hein. Donc, au sous-sol, pas à l'Alsace et à la Lorraine. Donc, avouons-le au passage, quand même, nous serions là à parler du droit des peuples, de l'autodétermination, etc., etc. Et nous aurions sans doute des bataillons de manifestants dénonçant une forme de colonisation, ou de guerre colonisatrice, voilà. Eh bien, ce scénario, en fait, il existe, mais c'est sur le continent sud-américain. Figurez-vous que c'est exactement ce que vient de faire le Venezuela à son voisin, le Guyana. Et ce, dans une indifférence quasi généralisée, en particulier à gauche, où je parle de la gauche européenne et française en particulier. En même temps, c'est une partie de cette même gauche qui voyait dans Poutine un mec bien et dans Maduro un révolutionnaire. Hein. Donc dur hein, pour les tenants de l'anti-américanisme primaire. En ce moment, leurs idoles sont souvent des ordures. Voilà.
Oui, et l'adoration des hommes à poigne.
Voilà. Alors, je vais quand même le dire, ceci ne valide pas les positions de droite et d'extrême droite. Ce que je viens de dire, c'est juste que je suis déçu quand je vois le camp progressiste être aussi hémiplégique ou aveugle. Voilà. Alors, comment ça se passe au Venezuela? Donc, depuis des années, Le Venezuela estime qu'une région du Guyana, alors ça s'appelle l'Essequibo, je crois que ça se dit comme ça, l'Essequibo, pardon, lui revient, hein, voilà. Petit détail, hein, qui ne change rien au fait que la réclamation est illégitime. Cette région représente quand même 160 000 km², soit 2/3 du Guyana. C'est une grosse région, hein, c'est bon, petit, voilà. Ouais, rien que ça, quoi. On est quand même sur du, je te prends 2/3 du pays, si ça t'emmerde pas. Alors, cette revendication, elle n'est pas nouvelle, hein. Et en fait, elle date du 18e siècle. Donc, ça va, hein, 1700 et des brouettes. Bon. Elle a quand même été tranchée au 19e siècle. Puis ensuite, quand même, par les Nations Unies, 5 fois. Hein, parce que fallait quand même bien le marteler. Donc, une cour de justice a donc reconnu en 1899 que la frontière du Guyana était celle connue aujourd'hui. Donc, il y a quand même eu un procès. Et il faut savoir qu'historiquement, le procès était à l'origine à l'initiative du Venezuela. Okay. Donc ils ont été déboutés de leur demande, hein, c'est pour expliquer un peu, et passé à l'issue de l'Empire espagnol, parce que vous savez que en Amérique, sur le continent américain du nord au sud, il y a eu un empire anglais, un empire espagnol, un empire français, enfin voilà, et tout le monde a un petit peu dessiné les frontières comme ça l'arrangeait à une époque, voilà. Et donc, il ne pouvait donc pas y avoir de revendication sur le territoire de la part du Venezuela. Donc depuis 1899. Donc ça a été confirmé plusieurs fois ensuite, donc je disais 5 fois, non pardon, 4 fois, 4 résolutions aux Nations Unies, qui ont rappelé que non, bah en fait c'était pas au Venezuela, et que bah la frontière telle qu'elle était fixée aujourd'hui, il fallait s'y tenir. Bon, voilà, c'est un peu... Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des résolutions des Nations Unies sur les tracés de frontières, pour d'autres que d'autres endroits du monde. Ce serait quand même bien de se rappeler que c'est aussi valable en Amérique du Sud. En gros, si on s'en tient en droit international, si cher à ceux qui parlent de colonisation, hein, au passage, souvent ça sert de base à ça, et de façon juste, hein, je n'ai pas de souci avec ça, le Guyana n'a pas volé la région de l'Essequibo, hein, donc c'est juste dans ses frontières, tout simplement. Seulement... Au Venezuela, dès qu'il y a une crise qui est là, politique, économique, machin, le sujet de ce bout d'Amérique du Sud ressort systématiquement pour galvaniser les foules à coups de nationalisme et de fierté nationale. Et alors attention, hein, que ce soit l'extrême droite, la droite, la gauche ou l'extrême gauche qui est au pouvoir, c'est toujours utilisé. C'est vraiment le truc le mieux partagé, à une valeur sûre, voilà ça. Et cette fois-ci, hein, c'est donc l'arme du référendum qui a été brandie par Maduro. Hein, il a fait un référendum, il a dit « Moi j'ai fait un truc démocratique ». Alors normalement, je vous rappelle, un référendum, vous posez la question aux gens concernés. Ah non, lui Maduro, il s'est pas fait chier, hein, il a fait voter que les Vénézuéliens. Déjà les gens, bon, pas concernés.
Hein. Mais en même temps, quel droit il aurait d'organiser dans un pays qui n'est pas le sien.
Bah aucun, mais c'est là qu'on voit l'absurdité de dire « j'ai fait un référendum ». C'est assez comme si... on imagine dans n'importe quelle autre situation, si on fait un référendum dans un pays, puis qu'on dit bah, « ils ont tous voté pour ». Mais enfin, nous, on n'a rien dit. C'est un peu le truc, voilà. Et dans un communiqué, il a indiqué que, selon le décompte qu'ils auraient fait, 96% des votants se seraient prononcés pour l'annexion de l'Essequibo. Ils auraient voté pour son retour au sein du Venezuela. Bon, il faut souligner que, comme toutes les élections au Venezuela depuis un certain temps, hein, les observateurs internationaux et les ONG, bah, elles disent quand même qu'il y a pas mal d'irrégularités, hein, notamment des urnes qui sont arrivées pleines. Non mais c'est pratique, comme ça on n'est pas emmerdé, je trouve, par les votants, hein, quand les unes sont déjà remplies, ou des gens qui, quand on savait qu'ils étaient contre, étaient empêchés de voter pour des raisons X, Y ou Z. Ils n'ont pas la bonne carte d'identité, ils sont pas, voilà. Donc voilà, et donc que ce soit pendant le vote, et surtout ils soulignent la proclamation des résultats qui ont donc été proclamés a priori alors qu'à peine un tiers des résultats locaux étaient remontés.
Voilà. Tout de suite, tu vois le mal partout. Ouais, non, mais. Ils savaient la lancée qu'il y avait.
C'est ça,
ils sont une projection.
C'est
quoi.
Bon, hein, au doigt mouillé, ça fait 96. Donc voilà. Bon, autant dire que ce référendum, hein, qui laisse quand même de côté les habitantes et habitants de la région concernée, donc c'est déjà surréaliste, et qui est organisé par un gouvernement, l'un des gouvernements les plus corrompus et militarisés de la région, a de quoi quand même laisser un peu sceptique. Voilà, pour pas dire ça. Et c'est pourtant là-dessus qu'aujourd'hui Maduro apparaît à la télévision et brandit la nouvelle carte du Venezuela, hein, augmentée de la région de l'Essequibo. Voilà, c'est sympa, hein, je veux dire, on sent que... Voilà. Donc il y a aussi des clips, hein, de l'armée vénézuélienne qui sont diffusés. Alors j'ai cherché, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, sont-ils souvent diffusés? Alors oui, ils sont diffusés exactement toutes les 20 minutes à la télévision, hein, ces clips de l'armée vénézuélienne, indiquant qu'ils sont prêts pour annexer la région. Voilà, c'est sympa. Et on voit aussi voilà, qu'il y a des lois promulguées pour, je cite, « donner de force, s'il le faut, la nationalité vénézuélienne voilà, aux habitants du Guyana qui seraient aujourd'hui au Venezuela, selon la nouvelle loi et les nouvelles cartes. » On sent quand même qu'ils ont vraiment leur mot à dire, les habitants de cette région. Oui, alors c'est bien une annexion. Hein. Oui, vas-y.
Bah, ils peuvent dire non. C'est juste qu'on les forcera à dire oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire non, mais ils seront quand même vénézuéliens. Voilà.
Donc pardon, c'est. On en rit, mais. Enfin,
Non, mais oui, voilà. Mais c'est clairement une annexion. Hein, ça s'appelle comme ça, en droit international. Donc c'est une forme de colonisation. C'est reconnu comme tel par l'ONU, hein, qui dit qu'une annexion est une forme de colonisation, ouais. Qui se fait sans que personne ne semble mesurer concrètement ce que cela sous-entend politiquement. Parce que c'est quand même extrêmement grave de se dire bah en fait un pays peut arriver et dire bah finalement le truc à côté c'est à moi quoi. Bon alors en même temps on est dans la même logique qu'un Poutine et son opération spéciale sur l'Ukraine. Et comme Maduro et Poutine c'est un peu des poteaux hein, ils sont tous copains comme cochons tous les deux, c'est un peu normal que les méthodes se ressemblent pas mal. Plus souvent, t'es copain avec les gens qui font comme toi. Voilà. T'es rarement copain avec des gens qui disent respectent la démocratie. Enfin, dans leur cas, en tout cas. Alors, pourquoi? Pourquoi vouloir annexer cette région? Parce que c'est ça qui est intéressant, quand même, derrière. Bah, déjà, parce que, sous la gestion de Maduro, quand même, dans la continuité de Chavez, hein, faut se rappeler de ça, quand même, le Venezuela connaît une crise économique énorme. Alors que je vous rappelle que le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole du monde. Aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient autant pour le problème économique. Mais bon.
Oui, en fait, je pense qu'il faut aussi élargir le truc, c'est-à-dire que pour la population, c'est difficile.
Ah oui, pas pour Maduro.
Mais pas pour Maduro.
Ni la famille de Chavez. Ouais, ni eux, ça va. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup donné à la nation.
Ouais. Donc ils en prennent beaucoup.
Okay. Bah ouais, faut comprendre aussi à un moment donné. Je rappelle que la fille de Chavez était la femme la plus riche du Venezuela à la mort de Chavez. Bah, un hasard. Il paraît que c'était une bonne entrepreneuse.
Oui, dans le pétrole, je crois.
Oui, dans le pétrole. C'est ça aide. Donc, voilà. Donc la répression quand même fait quand même rage hein, au Venezuela pour maintenir le calme et sauver la révolution bolivarienne. Et le déni de toute démocratie est de mise. Tout simplement. Mais ça commence à grogner, et notamment dans la jeunesse vénézuélienne qui commence un peu à en avoir marre. Parce que bon, il y a des slogans, par exemple, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, autogérons-nous. Donc ça fait un peu peur à Maduro, on peut le comprendre.
Ouais, ça fait peur à tous les politiciens ouais. de métier.
C'est
quoi.
Que d'un coup, il y a quand même un peuple qui dit. Ouais, on peut se démerder sans vous. Hein. Voilà. Et donc Maduro, il sait quand même que ça grogne pas mal. Alors autant faire d'une pierre deux coups. D'un côté, relancer le sentiment nationaliste et patriote, hein, pour unir sous un drapeau, voilà, d'une part.
Oui, et ça,
ça marche.
Ça marche partout. Hein, c'est pas spécifique au Venezuela.
Ben non, parce qu'en France, ça va être fait par des trucs sportifs, par exemple, ouais. Ou des choses comme ça. Tu vois, c'est un truc, le truc derrière le drapeau, on aime bien. Voilà, oui. Mais aussi, donc, aller chercher quand même de quoi remplir les caisses. Parce que le problème aujourd'hui qu'est le Venezuela, c'est ça. Parce que la région de l'Essequibo, en fait, c'est l'une des plus riches d'Amérique du Sud. Voilà,
c'est un hasard. Ça.
Un hasard, voilà. C'est marrant parce qu'il ne veut pas annexer d'autres régions, mais celle-là, il la veut bien. Alors, il y a donc en fait des gisements de pétrole, hein, déjà. En 2015, il y a ExxonMobil, donc, qui a fait un partenariat avec le gouvernement du Guyana. Alors, il faut savoir, parce que j'ai lu une partie de la gauche française qui dit « Oui, mais comme par hasard, c'est ExxonMobil, les Américains. » Alors non, c'était un appel d'offres et en fait, il y avait Total aussi. Mais c'est ExxonMobil qui a rapporté l'appel d'offres. C'est un peu ce qu'on appelle le marché.
Hein, voilà. Oui, ça s'appelle le capitalisme.
C'est le capitalisme. Alors, qui que ce soit, ça ne change pas grand-chose. Moi, je le dis clairement.
Oui, parce que genre, si ça avait été Total, ça aurait
été pas mieux.
Ouais, mais c'est un capitalisme français. Voilà. Et ça, une certaine partie de la gauche adore le capitalisme français.
Voilà. Mais allez en parler d'ailleurs sur le continent africain de Total, vous allez être bien reçu.
Capitalisme français.
Donc voilà, donc c'est ExxonMobil hein, qui avait rapporté l'appel d'offres et qui avait eu le droit de donc faire des recherches sous-marines pour trouver des gisements. Et ils ont trouvé un énorme gisement sous l'eau, au large du Guyana. Et alors, ce gisement, il est quand même estimé à plus de 10 milliards de barils. Oui, ça va faire du bien à la planète et au dérèglement climatique, ça je sens. Soit plus que ce que déclare quand même avoir sous ses pieds le Koweït. Pour vous rendre compte quand même de la richesse que ça représente.
Donc forcément, ça ouvre l'appétit.
Ouais, un tout petit peu quand même, quoi. Et c'est pas tout. Alors, cette région du Guyana, elle regorge aussi d'or, de métaux rares, et de bauxite. Alors là, vous me direz, mais c'est quoi la bauxite ? Eh bien, la bauxite, c'est la base de l'aluminium. C'est ce qui permet de faire de l'aluminium. C'est-à-dire que c'est trois des composants qu'on recherche le plus en ce moment. Eh oui, l'or, parce que ça, c'est stable. Les métaux rares, parce que c'est vachement bien pour mettre dans tout ce qui est batterie et LED et compagnie. Et le bauxite, parce que l'aluminium, aujourd'hui, c'est le métal le plus recherché à l'échelle de la planète. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des intérêts à récupérer cette partie du Guyane. On comprend quand même d'un seul coup un peu mieux aussi d'ailleurs pourquoi Maduro a un tel appétit qui s'est réveillé et pourquoi il devient à ses yeux urgent de faire de cette région un bout du Venezuela. Bah ouais, faut pas déconner, hein. Bien entendu. Il parle lui de retour à la vraie nation et autres sauvetages des habitants de la région. Oui, ça doit vous rappeler quelque chose, un truc avant l'Ukraine, hein, voilà, c'est où un gars est arrivé à une télé, il a expliqué qu'il faisait une opération spéciale pour un retour à la vraie nation et la sauvegarde des habitants de la région du Donbass en Ukraine. Oui, est-ce qu'il se copie les discours aussi ? Parce que c'est pas des bons élèves, c'est des copies au-dessus de l'épaule. Oui, donc c'est quand même Papa Poutine. Ça, c'est bien, c'est ça qui est bien, c'est que on reconnaît un peu la papatine hein, derrière quand même. Mais pourtant, la première chose qu'il a fait hein, quand même, Maduro, hein, c'est pas d'aller dire j'ouvre les frontières pour que ces opprimés du Guyana puissent rentrer au Venezuela, parce qu'après tout, il aurait pu faire ça. Non. Il a donné tout pouvoir à l'armée d'agir et il a signé des droits d'exploitation du pétrole par la société nationale PDVSA, détenue par beaucoup de proches de Maduro et de Chavez. Voilà, on sent quand même que c'était une opération de sauvetage, hein, on a bien compris. Voilà, donc moi ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a un grand silence en ce moment autour de tout ça, et une partie notamment importante des progressistes, et ça me gêne. Maduro, il avait su, du fait de la guerre en Ukraine, et la fin du pétrole russe accessible, parce que du coup il y a eu des sanctions, se remettre au centre du jeu en promettant de l'or noir à l'Europe et à la Chine. Bah oui, parce que vous savez, quand un dictateur est pas en bon ordre de sainteté, on va avoir un autre dictateur. C'est un peu comme ça, c'est le principe de...
C'est les lois du commerce.
C'est le principe des vases communicants. Ouais, c'est bon. Donc on n'est donc pas surpris hein, que dans un cynisme absolu, les voix pour s'opposer au dépeçage du Guyana sont quand même bien faibles. Alors il y a les Américains quand même qui ont réagi, parce qu'ils ont dit... ouais, en fait, le Guyana c'est des potes, hein, c'est vrai en plus, hein, historiquement, il y a des liens très forts entre le Guyana et les USA. Alors c'est pas une question que de gouvernement, c'est aussi parce que les USA ont protégé déjà le Guyana du Venezuela dans le passé, donc il y a des liens aussi qui sont liés à ça. Et puis il y a le Brésil aussi. Alors le Brésil, ça le fait pas rire, parce que pour aller au Guyana rapidement, il faudrait que l'armée de Chavez, elle traverse une partie du Brésil. Donc ils ont dit non. Et ils ont dit, oh, non, parce que là, pas déconner, parce qu'ils voient bien le coup que la partie qui traverseront du Brésil, elle restera au Venezuela après, vous voyez. Donc,
c'est pour faciliter le transit.
Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et ben, ça les fait chier, les Brésiliens, justement, tu vois, voilà. Non, mais voilà. Mais du coup, Lula, il a dit, bon, écoute, Maduro, t'es gentil, on est censé être dans le même camp, mais.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que.
Mais là, non. Okay. Voilà, parce que quand même, ils sentent bien que Maduro, il a un peu l'envie de faire grossir son pays un peu trop. Vous voyez, c'est un peu le truc, ils se disent, ça va être la première étape le Guyana, ils vont pas s'arrêter là le monsieur. Mais alors, quand même, moi j'aimerais quand même, mais que dire de celles et ceux quand même qui montent des appels au boycott de pays colonisateurs, par exemple hein. Ouais. Pourquoi ce silence autour du Venezuela? Parce que, pourquoi après tout, voilà. C'est vrai que Maduro est vu comme un héros hein, par une partie importante de la LFI, par exemple, en France, pardon de les citer, mais moi je me rappelle quand même que l'un des derniers voyages de Mélenchon était pour aller voir Monsieur Maduro. Donc, a priori, ça doit être un poteau, hein, enfin, ou un truc comme ça.
Il aime les hommes à poigne.
Ouais, c'est ça. Mais là, en fait, sur le fait, ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire que on parle quand même d'une nation qui dit bah, « je veux prendre une partie, enfin deux tiers du pays d'à côté, si ça vous emmerde pas ». Donc, pas de critique, même pas une petite position sur le fait que l'armée serve de nouveau à annexer un pays, et rien. Une sorte de silence, une sorte d'absolu silence. C'est assez fascinant à observer quand même. Moi, je suis personnellement pour l'abolition des frontières. Donc, pour la fin des États et des nations, pour la solidarité et pour l'entraide. Donc, je sais d'où je parle. Voilà. Donc, je ne peux que dénoncer, sans sourciller, ce qui s'apparente à la mise au pas d'une population par une armée occupante. Parce que c'est un petit peu ce qui va se passer, hein. Là, faut pas se mentir. Mais, je peux que rester assez quand même circonspect et étonné d'une silence, d'une grosse partie du camp progressiste. Qui est censé quand même défendre aussi les droits des peuples et le fait que l'armée, c'est pas fait pour prendre des positions. Vous voyez, voilà. Alors. C'est quand même avalisé de fait, hein, parce que si quand on se tait, on avalise, c'est le principe, qui serait donc légitime pour n'importe quelle nation de s'approprier les terres d'une autre au nom d'un précédent historique ou de traces de présence passée. Voilà, donc toute ressemblance avec un autre conflit n'est pas un hasard. Voilà, mais la réaction diamétralement opposée interroge sur ce qui finalement motive les choses dans les deux cas. Et je pense qu'il va falloir aussi qu'on se pose des bonnes et vraies questions. Voilà, c'était mon petit billet sur le Venezuela et le Guyana. Et si vous savez pas où c'est, Google Maps est ton ami. Ou même si t'as envie d'utiliser des trucs plutôt open source, ça existe aussi. Oui. Open Map, hein, d'ailleurs. Et voilà, tu vas voir. Et mais voilà. Mais c'est juste surréaliste pour moi que ça se passe dans une espèce de silence feutré.
C'est un peu le problème qu'on peut relever sur l'anticolonialisme ou d'autres choses, hein, l'antimilitarisme, etc. C'est-à-dire que on navigue quand même beaucoup dans des choses qui sont à géométrie variable, en fait. C'est-à-dire que tu as souvent l'impression, attention, je ne fais pas de grands ensembles, je ne considère pas que tout.
Oui, parce qu'il y en a qui en parlent quand même.
Ouais, ouais,
c'est mentir. Mais
on va essayer d'être justement.
Mais disons, on va dire les grands partis de gauche.
Oui, oui, ou même les grandes gueules. C'est-à-dire qu'un Mélenchon, il arrive à te sortir des tweets ou des X, là, comment vous les appelez, c'est-à-dire tous les deux jours sur tel ou tel journaliste, sur tel ou tel truc. Et là, il n'a rien à dire. Donc c'est vraiment, et en même temps vu l'autoritaire que c'est normal que ce genre de truc il peut pas les dénoncer parce que
moi je serais la Rémanie, je me méfierais en Allemagne si Blanchon arrive au pouvoir.
Non mais et que oui en fait, enfin vraiment ce truc de, des fois on a l'impression que ce soit l'anticolonialisme ou d'autres choses, on a presque l'impression que ça dépend en fait de qui est le colonisateur.
Mais c'est ça.
On a l'impression que selon qui. Et qu'en même temps, il y a une partie des gens, parce qu'on va parler quand même Israël-Palestine, etc., qui vont dénoncer les gens qui sont incapables de dénoncer la colonisation que fait Israël. Mais en même temps.
Et
eux,
qui est réel en plus.
Oui, oui, qui est réel. Et il ne s'agit pas du tout de discuter de ça. Hein, mais qui en même temps seront les mêmes qui vont être eux-mêmes incapables de voir un colonialisme venant d'un autre pays.
Par exemple, c'est les mêmes qui ont pas vu, qui ont eu du mal à condamner Poutine qui a attaqué l'Ukraine, qui aujourd'hui ont du mal à condamner le Venezuela, enfin pas le Venezuela, mais plutôt Maduro, parce que c'est quand même plutôt les dirigeants hein, qui font, c'est pas les peuples. Donc voilà, Maduro dans son expansionnisme, c'est les mêmes qui finalement, lorsqu'on commence à dire le Rwanda lorgne un petit peu du côté de ses voisins et veut récupérer Kenya. Notamment le Kenya, parce que par rapport à des sources d'eau, et que ça voilà. Et en fait, c'est les mêmes qui nous disent, ouais, mais là, c'est pas pareil. Sauf qu'en fait, bah, je suis désolé, mais quand on emploie une armée pour annexer une région, c'est une forme d'expansionnisme, et l'expansionnisme est une forme de colonialisme. Donc, c'est ça, moi, qui me dérange, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai vraiment cherché. C'est-à-dire que moi, je suis allé sur les sites des grands partis de gauche et tout. Alors, je vais le dire, il y en a un qui en parle très, très bien, c'est Place Publique. Alors, je suis désolé, ça fait deux fois que je parle de Place Publique, les gens vont croire que je suis un fan de Glucksmann, mais pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes idées sur plein d'autres trucs, mais je trouvais ça intéressant quand même qu'un parti dise ben on peut pas accepter cette idée-là, alors que je vois, mais que ce soit le Parti communiste, la LFI, le NPA, voilà, tous des partis qui sont quand même plutôt prompts à être les premiers à parler de colonialisme dans plein d'autres cas, ben dans ce cas-là, en fait, ou d'expansionnisme d'ailleurs, parce qu'on va appeler le bon mot, et ben en fait, là, il y a une sorte de silence un peu gêné aux entournures en se disant, ouais, mais quand même, quoi. Et là, j'ai vu que le fait que Lula rentre dans la danse en disant, non, mais là, tu vas quand même pas venir bouffer une partie du Brésil pour aller choper le Guyana, ben là il y a quand même des gens qui disent, ah ben non, Lula est-il vraiment de gauche? Ben en fait je sais pas s'il est vraiment de gauche ou pas, ben en tout cas je peux comprendre aussi qu'un dirigeant d'un pays prévienne quand même un autre pays en disant tu vas pas m'annexer, quoi. Enfin, il faut aussi un petit peu à un moment donné revenir. Alors moi je suis, comme je le dis, hein, je suis pour l'abolition des frontières, je n'aime pas les États, je sais que les États c'est la guerre et on en aurait la preuve là une fois de plus. Donc mais par contre je suis surpris que d'un seul coup l'analyse n'aille pas au bout et qu'on se dise pas, ben là on devrait quand même, je sais pas moi, a priori je le disais, Mélenchon a rencontré Maduro je crois il y a un an. Ben, je pense que Mélenchon il peut appeler Maduro du coup, lui dire bah excuse-moi, qu'est-ce que tu fous, quoi, ou au moins le dénoncer, ou au moins écrire quelque chose. Mais non, et là je pense vraiment qu'il y a un silence coupable, c'est-à-dire que c'est ça mon problème, quoi.
Ben, ou alors est-ce que la géométrie variable ne viendrait pas du fait que finalement on a beau dénoncer l'expansionnisme ou un colonialisme, il y a quand même certaines personnes, et quand même beaucoup je pense, sinon j'ai envie de dire les anarches ce serait beaucoup plus visible, mais qui en fait quand même continuent de kiffer leur patrie, leur petite nation, et kiffent la nation en fait. Donc alors que finalement sans patrie, sans nation,
il n'y a pas tout ça
en fait, et que donc c'est peut-être aussi une On arrive dans ces incohérences parce qu'on ne veut pas aller au bout de la radicalité, c'est-à-dire aller à la racine de la problématique.
L'abolition de l'État.
Ouais. L'abolition de l'État, des frontières et une libre circulation des individus.
Mais je crois que le truc le plus pourri que j'ai lu, alors je ne vais pas les citer parce que j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub à Révolution Permanente, mais le truc le plus pourri que j'ai lu, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même osé écrire, il y a que 125 000 personnes qui habitent dans cette région du Guyana.
Oh, ça va.
Je sais pas. Et je me suis dit, mais c'est d'une absurdité. Mais d'oser écrire ça. Alors d'abord, je sais pas combien de personnes habitent là, mais même s'il y en a 100, il y en aurait même que 1000. Je veux dire, c'est une armée qui arrive et qui dit à des gens,
dégagez,
ou vous êtes de force, machin. Je veux dire, quel que soit le nom, c'est juste hallucinant, quoi, de dire. Et là, c'est ce relativisme par le nombre. Je me suis dit, dis-toi, ça veut dire, ce serait le même genre de personne qui dirait, là, il y a eu que 1000 morts, c'est pas un massacre, tu vois. Mais 10 000, ça commence, tu vois. Il y a un moment donné, tu peux pas commencer à hiérarchiser comme ça et à dire, non, c'est pas grave, il y a que 125 000 personnes. Enfin, je trouve ça juste surréaliste. Et en fait, à un moment donné, il condamnait aussi parce qu'il disait qu'il y avait un élan. Alors ça m'a fait rire. Alors ça, c'est pas Révolution Permanente, c'est une autre partie de gauche que je ne citerai pas, mais c'est la LFI. Il y a un gars qui a écrit quand même un truc en disant, oui, mais regardez, il y a un élan nationaliste au Guyana et ils sortent les drapeaux pour dire, on est fiers d'être Guyanais. Je crois que Guyanais, je crois, je ne sais pas comment ça se dit. Je ne sais pas, mais et vous ne croyez pas que dans l'autre sens, il y a des élans nationalistes aussi. Enfin, tout le problème ne viendrait que du Guyana. Alors lui qui n'a pas demandé grand-chose dans l'histoire.
Tu veux dire tous ces partis qui maintenant, dans tous leurs meetings de merde,
mettent le drapeau bleu-blanc-rouge.
Bleu-blanc-rouge, en fait. Je pense que la limite, elle est là. C'est-à-dire qu'ils veulent tous le pouvoir dans leur pays et donc ils ne peuvent pas aller au bout de la logique, en fait, parce qu'ils veulent le pouvoir et leur pays.
Et ceci dit, blague à part, parce que je veux quand même le dire, il faut quand même se rappeler qu'on a un département français qui s'appelle la Guyane, qui est à deux pas du Guyana, mais vraiment juste à côté, que si une guerre était déclenchée dans la région, nous serions potentiellement co-belligérants de fait, parce que nous avons des accords avec les pays qui entourent la Guyane. Donc c'est pas anodin, donc ça nous concerne aussi. Et qu'à un moment donné, c'est pas juste un truc qui se passe à des milliers de kilomètres dont on se fout. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu derrière. Et moi personnellement, j'ai ni envie que les États-Unis ou la France ou qui que ce soit rentrent en guerre là-bas, et j'ai pas envie que le Venezuela rentre en guerre avec le Guyana. Mais je pense qu'à un moment donné, si personne ne dit rien ou ne dénonce, c'est d'autant plus facile pour des fous de lancer des guerres. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Mais voilà. Et on peut passer à la musique si
tout
vous
à
voulez.
Fait.
Des arbres se pensent plus fort que tout. Accrochés aux branches, l'air me semble encore trop.
Tournant la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et vous venez d'écouter Eut, alors ça s'écrit O-E-T-E, et c'était une reprise de Pendant que les champs brûlent de Niagara, et c'est une chanson qui, voilà, regardons les champs brûler et attendons que ça passe. Voilà. Et donc toi Jean-Yves, t'avais envie de nous parler d'un rapport qui est sorti il y a un petit mois de ça.
Ouais, c'est ça, petit peu moins, trois semaines on va dire, c'était le 17 novembre 2023, la Civise a rendu son rapport final, hein, fait de 82 préconisations et de 700 pages au total, à la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel. Alors honnêtement, hein, je ne me suis pas lu les 700 pages pour vous en parler ce soir, mais j'ai lu, et je vous invite à en faire autant, bah, les 70 pages de synthèse. C'est vraiment accessible. Enfin, je veux dire, c'est, enfin, vraiment, je me suis étonné moi-même. Je me suis dit, ah tiens, c'est écrit dans un langage compréhensible.
Alors, normalement, les rapports sont censés pour être lus par n'importe quel citoyen.
Bah, c'est très bien. Pour une fois, j'en sais rien, mais en tout cas, là, c'est le cas. Là, c'est le cas, en tout cas. Donc, quand même, pour rappel, hein, la Civise, en fait, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, que, en fait, Emmanuel Macron avait annoncé, la création le 23 janvier 2021 et initialement prévue pour 2 ans, elle a été prolongée d'un an en décembre 2022. Alors l'émission, hein, de cette commission était donc de recueillir la parole des victimes et à partir de ces témoignages, bah, formuler des recommandations, hein, de politique publique. Ce qu'elle a donc fait avec son rapport final. Si je reviendrai, hein, sur quelques-unes des préconisations, en fait, bah, il me semble encore important de rappeler ici l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants, incestueuses ou non, bah, qu'avance la Civise. Alors, même si on est très clair, des chiffres on en avait déjà, des assauts on avançait déjà, etc. Et il n'y a pas d'opposition, enfin j'ai pas envie de faire une opposition dit et fait avant et ce qui a pu aider à faire aussi la Civise. C'est juste que ça vient rajouter encore plus de, comment dire, de matière à ces crimes-là et à cette lutte-là aussi, parce que c'est aussi une lutte que de vouloir mettre fin à tout ça. Je trouvais assez intéressant aussi, c'est que la commission fait un rappel clair, en fait, hein, sur notre rôle, ou déni collectif, vous l'appellerez comme vous voulez, et je vais les citer parce que vraiment, c'est d'une clarté incroyable. Les violences sexuelles faites aux enfants, l'inceste, sont un problème social, historique, politique, absolument spécifique. Tous les problèmes sociaux ne font pas l'objet d'un déni aussi puissant, ancien et ancré dans la pensée collective. Et les violences sexuelles faites aux enfants, si longtemps confinées à la sphère privée et à l'intime, mettent aussi en question nos représentations collectives de la famille, de la sexualité, de la liberté, de la relation et du pouvoir. L'histoire de l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants, c'est l'histoire d'une société qui veut faire comme si ça n'existait pas. Ce silence si bruyant, c'est celui auquel se heurtent les victimes lorsqu'elles révèlent les violences. J'ai été ravi d'entendre citer la notion de pouvoir, etc. On parle de pouvoir, en fait.
C'est limpide sur le constat, en tout cas.
Oui, c'est ça. Vraiment que, ouais, y a que des gens qui ne voient rien et qui n'entendent rien. Elle rappelle aussi, hein, que plus une personne est vulnérable, bah, plus le risque qu'elle soit victime de violence est élevé. Ce qui paraît logique, mais encore une fois, Je pense que la logique, des fois, on s'en détache et on ne voit plus rien. Et un enfant est une personne très vulnérable, selon la CIVI, c'est le cas. Et un enfant handicapé est une personne extrêmement vulnérable. Et la CIVI, en fait, hein, elle consacre un chapitre entier aux violences, au sujet des violences subies par les enfants handicapés. Bah, en fait, elle a quand même la bonne idée de ne pas les différencier dans ses 82 recommandations. Hein. C'est une personne en situation de handicap, enfant, ça reste un enfant qui est sujet à tout ce qui a pu être évoqué durant ces 3 ans de commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Et j'en reviens quand même, pardon, à cette cartographie justement de la commission, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ouais, c'est important. Déjà, elle a eu 30 000 témoignages. 30 000, enfin moi je trouve que c'est absolument énorme, et que ça démontre aussi, je trouve, que lorsqu'on ouvre un espace d'écoute, de dialogue, eh ben... un truc de dingue, hein. Bah, les gens parlent en fait, quoi. C'est fou, hein. Donc c'est peut-être, je me suis dit, tiens, peut-être un truc à méditer, quoi. Peut-être que si on écoutait les gens, peut-être qu'ils auraient des trucs à dire, enfin bref. Et donc selon la CIVIS, hein, quand même, on parle de 160 000 enfants en France qui sont victimes chaque année de violences sexuelles. Autrement dit, toujours en France, n'est-ce pas, un enfant est victime d'un viol ou d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes. Hein, vous faites le calcul, il est 35. Je reprends mon calme et mon sérieux. Donc, un autre chiffre qui a été repris par la CIVIS, mais qui en fait avait été avancé par la CIAZ. En fait, la CIAZ, c'était la commission indépendante autour des agissements, des violences sexuelles, etc., au sein de l'Église. Et en fait, cette commission avançait déjà, et la CIVIS les reprend à son compte. On parle donc de 3,9 millions de femmes et 1,5 million d'hommes, donc adultes, qui ont été confrontés à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Ce qui, au total, n'est que un chiffre de 5,4 millions. Hein, c'est rien. Donc voilà, je reprends. Donc les violences, le plus souvent, les violences sexuelles sont incestueuses. Hein. Dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Dans 22% des cas, l'agresseur est un proche de l'enfant et de ses parents. Et enfin, 8% des violences sexuelles sont commises par un inconnu dans l'espace public, rue, transport en commun, etc. 8%.
Mais c'est entre guillemets, je mets intéressant, mais je mets les guillemets à ce que je dis, c'est que ça casse encore l'image qu'on a de toujours mettre en avant les choses qui sont exogènes, et finalement c'est plutôt endogène à la famille, aux proches, et tout ça, mais c'est un peu comme pour le viol, où on met beaucoup en avant
l'inconnu dans une rue,
et qui existe, hein, mais qui est minoritaire par rapport à l'ensemble des viols. Quoi.
C'est un peu l'arbre qui cache la forêt.
Oui, c'est
quoi.
Ça, ouais, et qui permet un peu de nous dédouaner aussi.
À qui le dis-tu ? Les violences sexuelles débutent très tôt. En moyenne, hein, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences. Là aussi, je trouve qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de faire ni dans le mélo, ni de vous abattre plein de chiffres, mais je pense que c'est absolument important quand même de se rendre compte de quoi on parle. Quoi. Et la CIVIS a vraiment permis aussi ce boulot-là. Donc, lorsque les violences sexuelles sont incestueuses, les victimes, elles avaient 7 ans et demi au début, au moment du premier passage à l'acte. Et il faut savoir que quand même 22% des victimes, les premiers viols ou agressions sexuelles ont commencé lorsqu'elles avaient moins de 5 ans. Voilà. La CIVIS, elle dresse également aussi un portrait des agresseurs. Alors la CIVIS aussi, je fais un petit décrochage, mais la CIVIS aussi, elle explique en début de sa synthèse, et ce que vous trouverez dans le rapport aussi, mais la synthèse c'est dedans, c'est pourquoi le choix de certains mots.
Hein, oui, c'est important.
Agresseur et non pas pédophile. Ouais. Et si c'est pas agresseur, ça sera pédocriminel. Voilà, c'est là aussi je trouve que c'est hyper intéressant de... Ouais, de donner les définitions, le sens des mots, etc.
De comprendre.
Etc., de comprendre, ouais. Donc, dans 97% des cas, l'agresseur est un homme. Et dans 81% des cas, il est majeur. Et alors, comme on l'a déjà dit, et comme tu viens de le redire aussi, on l'a déjà régulièrement dit dans la causerie, la commission elle rappelle effectivement que la représentation la plus commune de la figure du pédocriminel, c'est celle d'un individu inconnu, agissant seul dans l'espace public, ou la figure monstrueuse de l'individu appartenant à un réseau qui enlève les enfants. Hein, vraiment là aussi, je trouve tellement limpide. Mais elle ne correspond pas à la réalité. Hein, parce que le plus souvent, les pédocriminels sont des hommes que nous côtoyons dans notre vie quotidienne. Ils sont membres de nos familles, ils peuvent être des collègues, etc. etc.
Et ça peut être des gens charmants.
Oui, oui, ah mais oui, oui.
Non, enfin... mais je dis ça parce qu'il y a aussi cette notion. J'avais vu ça par rapport à un reportage qui avait été fait autour de du rendu de cette commission, et où quelqu'un disait j'aurais jamais cru ça de. Et en fait, c'est comme si on pouvait le voir, mais si on pouvait le voir, bah, les agissements seraient plus simples à empêcher.
Oui, oui.
Voilà, non, mais je rappelle aux gens que c'est. Oui, ça peut être des gens charmants. Mais oui, ça n'empêche pas que ce soit des sacrés.
Et justement, la civise le rappelle aussi, hein, c'est que les agresseurs peuvent être très bien insérés socialement,
ça, ouais.
Ou vivre dans la précarité, mais encore une fois, là aussi, c'est pas une histoire de classe.
Non. Hein,
c'est pas du tout l'idée non plus.
C'est comme pour le sexisme, en fait.
C'est ça, on se trompe complètement si on part sur cet angle-là. Ils ont en commun hein, de jouir. Je cite encore la civise, ils ont en commun de jouir d'une domination d'âge, d'autorité, de statut et de sexe sur les enfants qu'ils violent. Là encore une fois, hein, ce mot de domination, de pouvoir finalement, d'autorité. Alors le plus souvent, hein, les agresseurs sont des pères, P-E-R-E-S, hein, donc 27% des cas. 19% des cas, c'est des frères. 13% des cas, ce sont des oncles. Dans 8%, ce sont des amis des parents. Ou 5% encore, ce sont les voisins de la famille. Voilà. Je suis désolé, j'espère que vous trouverez un intérêt à ce que je vous dis là, mais parce que vraiment, je trouve que la civise a fait un boulot de...
Bah, l'intérêt, c'est déjà peut-être un petit peu d'inverser, justement, de sortir de ce cliché. Du cliché
oui.
De l'homme isolé en imperméable qui attend derrière un arbre. Quoi.
Oui, c'est ça.
Et de rentrer dans l'idée que, ben non, le plus grand risque, il est plutôt à la maison et il est plutôt avec des très proches. Quoi.
Voilà. Dans le secret des quatre murs que constitue
ouais,
un
ça.
Appartement ou une
tout
maison. La civise, elle rappelle aussi bah, les conséquences des violences sexuelles sur, bah, sur les enfants et sur les adultes qu'ils seront, en fait. Quoi. Oui. Donc 9 victimes sur 10 hein, ont développé des troubles associés au psychotraumatisme ou troubles de stress post-traumatique, pardon. Bah, ce qui veut dire conduite à risque, admettons bah, les addictions, hein, des expositions à des situations dangereuses, des comportements agressifs envers soi-même ou envers les autres, etc. etc. On parle aussi de troubles psychiques, dépression, conduite suicidaire, troubles alimentaires, etc. Mais aussi physiques. Hein, ça a des conséquences sur plein de plans. Les violences ont également des conséquences importantes sur la vie affective et sexuelle des victimes. Là aussi, je trouvais que c'était intéressant bah, d'aborder ce sujet-là, en fait. Quoi.
Oui, mais c'est
en fait, les personnes qui sont victimes sont des humains dans toute leur, enfin,
bah
dans,
oui.
dans toute leur complexité, dans tout ce qui les constitue. Quoi. Donc, sur la vie affective et sexuelle des victimes, bah, plus d'un tiers des victimes, bah, les violences sexuelles ont eu un impact négatif sur leur libido. Pour un autre tiers de victimes, les violences sexuelles les ont conduites à renoncer à toute forme de vie sexuelle. Et enfin, les violences sexuelles subies dans l'enfance peuvent atteindre la vie sexuelle par le registre de l'hypersexualité. À l'inverse, donc, un peu, qui peut bah, se manifester par la multiplication des partenaires, voire des expériences à risque. On retombe aussi là un peu dans les conduites à risque qu'on a pu évoquer juste avant. Autre risque, hein, bah, celui aussi de subir à nouveau des violences. Le fait d'avoir été victime de violences sexuelles dans son enfance augmente par 2 le risque d'être victime de violences conjugales au cours de sa vie. 31% des femmes qui ont témoigné à la civise le sont ou l'ont été au cours de leur vie. C'est voilà. Alors certains, ce que je me disais, voilà, certains rappels qui me semblent moi encore une fois important de dire encore et encore, bah, peut-être pour un jour, peut-être hein, sortir du déni, ça pourrait être bien, je pense, pour les millions de victimes. Et donc j'en viens quand même à quelques-unes des préconisations de la civise. Alors elle les a organisées en 4 thèmes le repérage, le traitement judiciaire, la réparation incluant le soin et la prévention. Là aussi, hein, vraiment, c'est très clair dans leur synthèse. Je vous invite vraiment à le lire, c'est vraiment très bien foutu et compréhensible. Donc elle propose déjà, quand on est sur le repérage, bah, elle propose d'organiser un rendez-vous annuel de dépistage et de prévention dans tous les lieux de vie des enfants. Hein, qui serait donc centré sur l'évaluation de son bien-être, de son développement, et qui intégrerait en fait hein, les repérages systématiques des violences sexuelles. Parce qu'encore une fois, si on forme les professionnels, etc., on peut détecter des choses. Vraiment. Enfin, y a rien d'irréparable ou de solutionnable dans tout ça. Sur le traitement judiciaire.
Rien d'insoluble.
J'ai dit
solutionnable.
Ah ouais, pardon, c'est mon appréhension du français.
Non, c'est pour pas que tu fasses un contresens, il fallait dire l'inverse.
Donc sur le traitement judiciaire, elle préconise en fait l'imprescriptibilité au sujet des violences sexuelles faites aux enfants. Alors ça, c'est un sujet qui revient vraiment, vraiment très régulièrement quand on parle des sujets, enfin quand on parle des violences sexuelles faites aux enfants. Hein, c'est sûr ou non, en fait, on s'en fout. Enfin, ça, là, ça n'a pas d'importance, c'est les résultats eux-mêmes. Avec ses opposants hein, qui disent que ça peut être un faux espoir pour les victimes, etc., mais aussi ses défenseurs. La CIVIS, là c'est pareil, hein, ils expliquent hein, c'est qu'ils ont trouvé, on va dire, une position
médiane
entre tous ses membres. Donc là aussi, je trouve que c'est intéressant que, ils révèlent qu'en fait tout le monde n'était pas d'accord, c'était pas une grande messe de gens qui étaient tous d'accord, etc. Et souvent, en fait, les gens qui peuvent défendre l'imprescriptibilité. J'ai le souvenir d'avoir entendu le coprésident de la commission qui disait, en fait, par exemple, Papon, il a été condamné après sa mort.
Oui, oui, c'est ça.
Et donc, c'est pas impossible, en fait, quoi. Alors, évidemment, après, on peut parler de preuves, etc., mais c'est des choses qui sont faisables, en fait.
Moi, ce que j'ai lu aussi,
le rapport,
enfin, ce que tu as lu, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le positionnement de la CIVIS et de dire, en fait, les victimes, elles demandent pas forcément, je vais le traduire comme ça, mais c'est pas ce qui est écrit noir sur blanc, parce que je l'ai pas en tête exactement. Mais en fait, elles disent, les victimes, elles demandent pas forcément à ce que les gens soient envoyés en prison ou machin. Non, c'est qu'on reconnaisse, en premier lieu, que l'État, à travers sa justice, reconnaisse leur statut qui est celui d'avoir été victime à un moment de leur vie d'un acte qui est répréhensible et qui ne doit pas passer sous le tapis. Et en fait, dire on fait une imprescriptibilité, je pense que toutes les victimes sont conscientes, ou la plupart en tout cas, que ça ne va pas forcément permettre une condamnation sûre et certaine, mais ça ouvre quand même le possible d'être connu comme ayant été victime, y compris quand on a été victime d'une personne qui est décédée, c'est-à-dire, je pense, un grand-père, par exemple, de façon à ce que votre statut vis-à-vis de l'État soit reconnu. Et c'est déjà un pas énorme. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont contre l'imprescriptibilité, souvent ils disent « Oui, mais on peut pas faire condamner ou demander des dommages et intérêts. » Mais moi, dans ce que j'ai lu, de ce que la CIVIS écrit, c'est pas la première chose que demandent les victimes. Elles disent pas « J'ai envie d'avoir un gros chèque » ou « J'ai envie que la personne... » Non, elle dit « Je veux qu'on me reconnaisse comme ayant été victime. » Et ça, c'est quand même pas non plus... Enfin, c'est quand même pas rien. Et je trouve que là, de balayer ça, comme le font certains, en disant « Ouais, mais non, parce que quand même, 40 ans après... » Ben oui, mais même 40 ans après, en fait, c'est quand même important que la communauté, parce que c'est un peu l'idée de la justice en théorie, hein, la communauté puisse dire à quelqu'un « Oui, on sait que tu as été victime et oui, on te reconnaît comme tel. »
Oui, et puis il y a aussi pas mal de victimes qui rappellent que elles ont pris à perpète. Alors évidemment,
c'est ça,
on
oui.
peut aussi en discuter, etc.
Mais non, mais c'est une réalité.
C'est juste oui, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez été victime de ça, c'est quelque chose que vous traînez, en fait. Enfin, vu les conséquences aussi.
Dans l'ultra majorité des cas, c'est quelque chose qui a un impact sur votre vie.
Oui, c'est ça. Alors toujours sur le plan judiciaire, il y a deux autres préconisations, ont pour objet de suspendre de plein droit l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du parent faisant l'objet de poursuites pénales pour inceste et de les retirer automatiquement au moment de la condamnation. Alors désolé, je vais être un tout petit peu cynique, mais si vous torturez un animal, vous pourriez ne plus avoir le droit d'en posséder. Et ça, c'est depuis quelques années. Hein. Par contre, dans le cas des violences physiques, sexuelles sur des enfants, des humains, enfants, on vient d'y penser. Ouais, j'avais prévenu que je serais un peu cynique, mais vraiment, je me suis dit, on en est quand même là, quoi. Enfin, il y a quelque chose de perturbant. Et alors, je suis pas en train de dire que c'est bien de torturer les animaux et qu'on devrait pouvoir en posséder pour en torturer autant qu'on veut. C'est pas mon propos.
Non, c'est
juste que c'est d'un coup, on se dit. Ok, c'est cool, donc on a eu quand même l'idée de se dire qu'il faut pas qu'il y ait d'autres chats ou chiens qui soient torturés. Par contre, l'humanité s'est pas encore dit, tiens, faut pas qu'il y ait d'autres enfants qui soient violés.
Bah oui, c'est ça.
Mais
en fait, il faut voir avec quoi ça résonne. C'est-à-dire que, pour moi, ça résonne avec toute la sacralisation très judéo-chrétienne qu'on a en France de la famille. Oui. Parce qu'on a beau dire qu'on est un pays laïque, blablabla. Non, la conception de la famille en France, elle vient de Napoléon. Et Napoléon, il s'appuyait quand même sur l'Église, hein. Donc, faudrait peut-être pas l'oublier. Et concrètement, en fait, ça vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, maintenant, on vient de se dire, on pourrait peut-être protéger les enfants, c'est pas des biens meubles. voyez ce que je veux dire? C'est pas,
oui,
c'est pas une table.
C'est ça.
Ouais, c'est un humain et il ressent des trucs. On serait quand même bien de prendre soin de lui. Et en fait, je vais juste rappeler, hein, ce qu'on avait dit dans d'autres trucs. La France n'a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant qu'en 1990. Donc c'est pas vieux. Voilà, c'est-à-dire que la ratification du droit international, voilà, c'est 90. C'est-à-dire qu'en fait, la France a été un des derniers pays démocratiques à la ratifier parce qu'il y avait déjà des oppositions à l'époque qui disaient que ça rentrait dans l'intime des familles.
Bah oui.
Et là, on retombe sur la même chose, c'est-à-dire qu'on retombe sur l'idée que faut pas. La famille c'est sacré, donc faut pas y toucher. Ben, je suis désolé, mais en fait à un moment donné, on devrait sortir un petit peu de ça parce que c'est un des gros problèmes.
Ah bah, et clairement, c'est-à-dire qu'un père qui a violé son gosse, je vois pas où est l'amour en fait.
Bah non,
qu'il
mais
faudrait
par contre,
continuer de perpétuer. Quoi.
Mais par
enfin,
contre, on peut pas lui retirer l'autorité parentale,
oui,
parce que de droit divin, parce qu'on va pas se mentir, c'est ça hein, qui est dans la tête en sous-jacent, c'est celui qui a engendré a de droit divin l'autorité parentale. Bah non, en fait, faut sortir de ce truc-là et dire que l'autorité parentale ça se construit et que quand on l'a construit mal, et ben on l'a plus, puis c'est tout. Je disais pardon, mais voilà quoi.
Ouais. Sur le troisième tome, enfin sur le troisième volet, on va dire sur la notion de réparation incluant le soin, ben la commission en fait elle préconise de garantir des soins spécialisés du psychotraumatisme aux victimes de violences sexuelles dans l'enfance en mettant en œuvre un parcours de soins en fait qu'elle a elle-même modélisé. Alors après on peut en discuter, etc. évidemment, mais là aussi, c'est-à-dire qu'on prend en considération d'un coup toutes les conséquences contre les violences sexuelles subies enfant quoi. Et ça c'est quand même bordel, c'est pas rien quoi. La Civise elle préconise aussi hein, que l'intégralité du coût du parcours de soins alors il précise plein de choses hein, psychologique, psychiatrique, etc., psychocorporel, etc.,
tout ce qu'on aurait besoin,
tout ce qu'il aurait besoin, bah, il soit pris en charge par la solidarité nationale. C'est-à-dire, hein, ensemble, on va aider, en fait, quoi, et que c'est pas aux victimes. Là aussi, en fait, on renvoie quand même un truc à, bah, c'est les victimes, démerdez-vous. Si vous avez de l'argent, bah, tant mieux, vous pouvez peut-être avoir accès à quelques soins qui pourraient peut-être vous aider à aller un peu mieux. Sinon, bah, démerdez-vous, quoi.
Pas de bol.
C'est ça. Donc, et là, on retombe sur des choses aussi de classe. Enfin, bref.
Et surtout que, enfin, faut le redire, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que l'impact sur les personnes qui ont été victimes peut aussi avoir un impact sur leur vie d'adulte, donc sur leur vie professionnelle, qui fait que elles peuvent avoir des difficultés à avoir des postes et obtenir des postes qui fonctionnent, qui leur permettent de vivre décemment. Et donc du coup, bah, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est des gens qui sont précarisés très souvent, mais à qui on demande en plus de payer leurs soins, parce que si c'était possible, ce serait bien. Quoi,
ouais, et au-delà aussi, mais même de transmettre on va dire inconsciemment aussi des choses à leurs enfants. Enfin là, je renvoie vers une très ancienne causerie où je vous avais parlé du documentaire qui s'appelle Longtemps Après, qui parle justement de la transmission générationnelle de choses sur l'attention à soi, etc., qui peuvent emmener à des choses aussi très dramatiques. Voilà, c'est dans la continuité, quoi. Sur la prévention, donc dernier volet, hein, bah, la Civise, elle préconise de généraliser le repérage des facteurs de risque par tous les professionnels, en particulier dans les cas de violences conjugales et grossesse. Mais aussi d'organiser le contrôle des établissements accueillant des enfants de manière préventive et en lien aussi avec les remontées d'informations relatives aux signalements et les retours d'expérience, etc., qui y feront suite. Ça aussi, je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on aille jeter un œil quand même dans tous ces établissements où il y a des enfants et on sait aussi.
Ça veut surtout dire que c'est pas fait aujourd'hui.
Mais oui. Ça, oui.
Ou du moins pas fait à la bonne échelle. Quoi.
Oui, et là aussi, ça, en fait, ça rejoint aussi quelque chose, c'est que. On retrouve souvent des pédocriminels qui peuvent choisir des métiers qui vont leur permettre d'accéder à des enfants. Enfin, désolé, je dis ça comme ça, mais c'est ça, quoi.
Mais
c'est d'accéder à des enfants et que donc.
C'est la notion de pompier pyromane. Il y a plein de pyromanes qui deviennent pompiers pour pouvoir être proche du feu. Bah, c'est la même logique.
Très, très bien, merci. Mais aussi, après, je m'arrête hein, pour les préconisations, mais assurer la mise en œuvre effective à l'école de séances d'éducation à la vie sexuelle et affective et garantir un contenu d'information adapté au développement des enfants selon leur âge. C'est marrant ça. Hein.
Ah ouais.
C'est un truc, je crois que beaucoup de gouvernements y vont à tâtons parce que ils voudraient pas.
Faire ce qui est un péché à chaque fois.
C'est ça, parce que finalement, il faudrait pas que ça heurte les cathos intégristes, les religieux intégristes, les familles traditionnelles ou qui voudraient pas. Enfin, parce que d'un coup, on va apprendre aux enfants à se masturber. Non. En fait, c'est ça peut-être le problème, c'est qu'on va peut-être apprendre aux enfants que leur corps leur appartient, que personne n'a à le toucher, que voilà. Enfin, c'est peut-être ça que les familles finalement ont peur qu'il se passe Ah merde, on va faire des individus libres et qui sont capables de penser, de se protéger. C'est fou ça, hein, merde.
Ça me permet quand même de rappeler un tout petit truc, parce que c'est important, je pense, de l'avoir en tête, hein, c'est qu'en France, en fait, aujourd'hui, 60% des gens, donc c'est des études sociaux qui ont été faites, se disent athées, c'est-à-dire n'ont pas de religion. Et donc, il n'y a que 40% des gens, c'est une minorité, qui ont une religion. Et dans ces 40%, il n'y en a que 10% qui pratiquent leur religion à fond. C'est-à-dire qu'ils sont, mais quelle que soit la religion, hein, mais qui sont des croyants vraiment, machin, 10%. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on peut faire un pas pour que ça aille mieux, on a peur de ces 10%-là. De 10%, de 40%, vous voyez. Donc c'est ces personnes-là, parce qu'elles sont très agissantes, qui sont prises en compte, qui sont machin et tout. Je suis désolé de le dire, mais à un moment donné, il faut avoir du courage politique. Et bah, si ces personnes-là existent, c'est vrai, elles existent, mais si on commence à arrêter ça parce qu'il y a quelques fanatisés du religieux qui n'ont pas envie qu'on dise que la Terre, elle existe depuis 4 milliards d'années, que la sexualité, ça s'apprend, que machin, et bah, si on commence en fait à chaque fois à les écouter, bon, en fait, on va juste revenir en arrière.
Donc, ah bah oui, de toute façon, ça leur donne raison.
Il faut avoir du courage politique, et comme tu le dis, l'éducation à la sexualité, c'est hyper important, et ça doit commencer le plus tôt possible, parce que bah oui, la première chose qu'on apprend, c'est le consentement et le rapport au corps. C'est pas le reste. Et le consentement au rapport au corps, bah, c'est déjà une sacrée victoire quand un enfant peut aller voir un adulte en lui disant ce qui arrive à la maison, ça aurait pas dû m'arriver parce que vous m'avez dit, madame, que normalement mon corps il m'appartient.
C'est exactement
voilà,
ça.
C'est ça. C'est juste ça en fait. Hein. Alors, madame ou monsieur d'ailleurs, pardon, je dis madame comme ça.
Alors évidemment, hein, y aurait encore beaucoup à dire et je pourrais encore en parler des heures, hein, mais c'est pas l'idée. Reste que je trouve quand même, encore une fois, que le vocabulaire qu'utilise la Civise et bon nombre de leurs préconisations sont vraiment de haut niveau. Enfin, vraiment, je trouve que ça a été un super boulot. Et ouais, qui, je pense, enfin, même dépassait peut-être un peu l'État. Parce que je suis pas sûr qu'ils ont envie de tout lire et tout entendre. Reste à savoir, hein, ce qu'en fera le pouvoir politique, évidemment, mais aussi la société, c'est-à-dire vous, derrière le poste ou derrière vos petits écouteurs en podcast, bah donc vous, moi, nous, quoi, en fait, collectivement, parce que si les violences envers les enfants sont aussi taboues et si peu dénoncées, c'est que le déni n'est clairement pas que tenu par les pouvoirs politiques qui ont gouverné ce pays, hein. Non, non, ce déni, c'est aussi et surtout celui d'une société dans son entièreté. Si le pouvoir politique a, alors évidemment, hein, son mot à dire, son potentiel veto à poser sur telle ou telle décision, ben, je reste persuadé quand même que si la société mettait la pression, si la société était réellement contre la maltraitance des enfants, qu'elle soit physique, sexuelle, criminelle, face aux enfants, en fait, je pense que les politicards bougeraient leur cul, en fait. Mmh. Donc là, encore une fois, je trouve qu'on a souvent un peu le truc très facile, et qui plus est souvent dans les militants, c'est-à-dire c'est l'État, c'est le capital, tout ça, c'est mal. Mais en fait, là, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Parce qu'il ne suffira pas d'abattre le capital ni l'État, en fait. Hein.
C'est comme pour le sexisme.
C'est exactement ça. Donc voilà, j'ai... Mais comme dit, le déni est général, donc c'est bien un réveil général qu'il faudrait aussi. Dernier mot, et après vraiment je m'arrête parce qu'on est hyper labour, on ne sait pas trop, hein, ce que va devenir la Civise. Alors si on pouvait craindre qu'elle soit mise au placard, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Par contre, les gouvernants voudraient en faire un truc plus large, vraiment plus large, allant sur le harcèlement, sur la prostitution des ados, etc., etc. Mais en fait, on peut se dire quand même, donc 3 ans sur les violences sexuelles faites aux enfants, c'est bon, on s'arrête là, c'est fini, hein ? On fait quoi ? Des millions de personnes qui sont concernées ? C'est bon, on leur dira, c'est bon, on a regardé, on va faire. Et que je n'oublie pas aussi, pardon, mais... alors là, c'est plus sur l'exécution des 82 préconisations. C'est, je me souviens d'un président qui avait dit qu'il allait foutre en place, et il l'a fait, une convention citoyenne, et qu'il allait exécuter des trucs, et qu'il allait mettre en...
Mais après, il pouvait plus.
Et en fait, il peut plus. Donc là, vraiment, j'ai pas non plus beaucoup d'espoir, je vais pas vous mentir, hein, sur ces 82 préconisations, même si j'ai cru entendre que, bon, il y a des choses qui vont se faire, mais...
Oui, mais ils vont faire ce qui est à la marge.
Ouais, en fait, c'est tout le truc, quoi.
Le problème.
Qu'est-ce qui sera fait, et comment ce sera fait, hein, là aussi.
Quels moyens? Parce que le vrai problème qu'il y a derrière tout ça, c'est les moyens. Quand on dit qu'il faut contrôler les lieux qui reçoivent des enfants, il y a énormément de lieux qui reçoivent des enfants, donc ça veut dire qu'il y a énormément besoin de moyens.
Mais oui, en fait, c'est ça la réalité.
Quand on dit qu'il faut former les personnels de santé, il faut déjà qu'il y ait des personnels de santé partout, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, former, ça prend du temps.
Bah, alors,
ça demande de moyens.
Je voulais pas aller sur le plan économique, etc., mais effectivement, c'est aussi une réalité.
Ah, mais pas qu'économique, non, mais moyens humains.
Oui, mais je veux dire, derrière, ça veut dire on va parler d'économie à un moment donné. La Civise, elle chiffre à, je crois, le prix du déni, je crois que c'est autour de 10 milliards par an que coûterait ce déni collectif des violences sexuelles faites aux enfants. Et en fait, ils disent, mettre en place tout ça, ça coûtera toujours moins cher, en fait.
Oui, clairement. Oui.
Parce que là aussi, c'est sur le long terme. Et qui sait, peut-être qu'une fois qu'on s'y attaquera vraiment, quelques décennies plus tard, peut-être que tout ça, ça sera plus du même niveau. Et...
Oui, puis c'est un choix de société.
Oui.
C'est-à-dire, quelle société ? Moi, si on commence à se dire ça coûte trop cher, donc on ne fait pas, mais en fait, c'est qu'on ne veut pas changer de société. Et à un moment donné, il faut se le dire, mais alors il faut avoir l'honnêteté de le dire, il faut que les responsables politiques qui ont demandé la Civise viennent nous expliquer. En fait, je l'ai demandé, mais je n'en ai rien à faire.
Ah.
Mais voilà, là, ils ont un peu plus de mal à le faire.
C'est ça.
Et dernier point, parce que je le trouve important et on l'oublie toujours de le dire, la classe politique, c'est-à-dire les gens qui nous représentent, ce ne sont pas représentatifs du peuple à plusieurs niveaux, parce que d'abord, souvent, c'est des gens qui sont plutôt bourgeois, plutôt machin, tout ça. Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de gens qui sont beaucoup plus croyants que la majorité de la population. Et on le voit sur plein de choses. La loi sur l'euthanasie, la loi sur le droit de mourir à la dignité, l'éducation sexuelle à l'école. Et en fait, il serait peut-être temps aussi, vous qui votez, parce que moi je vote pas, donc je peux le dire, mais vous qui votez, il serait temps quand même que vous arrêtiez d'envoyer des gens qui ne vous ressemblent pas. Parce qu'à force d'envoyer des gens qui ne vous ressemblent pas, vous avez des politiques qui vont contre vous. Voilà.
Bon voilà, je vous invite encore une fois à lire vraiment la synthèse de la Civise. Et on verra, peut-être, je ne sais pas si on veut la mettre sur le blog, on ne sait pas.
On mettra un lien.
On verra, mais je trouve que ça peut être intéressant qu'on vous aide à y aller. Allez, on part en musique.
Que des sorciers, par moi chez les mains papiers. J'ai tourné en bas, j'ai déjà fait le tour du quartier. Crâne irradié, ça fume l'âge coupé à moitié. Sur mon petit balcon qui donne sur les tours du chantier. Coup de mortier, si j'avais aucun remords. Ma mère à mes côtés, j'aurais fait brûler le monde entier. Que des sorciers, ouais j'ai juré que des croque-morts. Le voisin du deuxième qui coince les gamines en crop top. J'me vois bien sur la piste à faire des poids de danse. Pour le poids de vacances, ici c'est laser, la raptance. Crâne en latence, faites des voisins dans la GAV. Avec nos jeans délavés, positif aux substances. Ouais, dans mon HLM c'est Poudlard. On taille Bouddha et on se comporte comme des barlous. Ouais, que des sorciers, que des barbouzes. Je veux la pelouse de l'autre côté du boulevard. Short débardeur, l'histoire on la connaît par cœur. Shooté dans un ballon sur un mur pendant trois quarts d'heure. Dalle de hardeur, je voudrais sauter le monde comme Parker. Ça sent le gaz au troisième, la voisine prend les choses à cœur. Coup de marqueur, coup de fusil dans le parc. Que des sorciers dans mon quartier quand les bleus débarquent. Que des barkers, ouais j'ai juré que des croque-morts. Les voisins du cinquième qui ferment les volets qui se droguent fort. Ma mère dit qu'on va bientôt se barrer. Avec mon frère on fait que se battre. Il finit toujours par me démarrer. Tout va bien dans mon bar. HLM en papier. Quand tout le monde s'endort, je vais sur les toits, je perds un peu pied. Plus haut pour m'échapper. Des produits dans le corps pour changer de décor.
Et vous Vous êtes évidemment toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est encore la causerie qui va bientôt rendre l'antenne évidemment. Mais d'abord je vais vous présenter quand même ce titre, c'était HLM en papier et le groupe, le chanteur c'est The Doug. Et je vous invite vraiment à écouter l'EP Mauvais Joueur, c'est 5 titres et c'est vraiment très très bon et c'est une découverte.
Et allez le voir sur scène si vous pouvez parce qu'il est vraiment excellent sur scène.
Et une très belle écriture.
Je garde le crachoir du coup, on fera pas d'agenda ce soir parce qu'on est à la bourre.
Grave.
Donc vous irez par exemple sur rebellion.info et vous trouverez tout ce qui est autour de Lyon. Et sinon je voulais vous rappeler que si l'émission vous a plu, vous pouvez la retrouver sur le blog à blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie. Si tu as envie de nous écrire, tu nous écris à lacauseriecanu@gmail.com.
Si tu veux des stickers, c'est la même adresse.
C'est la même adresse, mais envoie une adresse postale du coup pour avoir des stickers. Tu peux aussi passer nous voir juste avant l'émission, on est là en général, donc voilà. Parce que si on n'est pas là avant l'émission, on n'est pas là à l'émission. C'est logique qu'on soit là avant. Voilà. Et sinon, on est sur j'ai trouvé très bien de ça là aussi. On est sur tous les trucs de balado diffusion podcast. Donc tu tapes La Causerie Canu et tu nous trouveras. Et sinon, je crois que j'ai tout dit.
Bah oui.
Et on a une page Facebook, mais par contre, c'est juste pour faire de la promo. Donc préfère nous écrire sur le blog.
C'est ça. Et puis nous, on vous donne donc rendez-vous dimanche prochain de 22h à 23h. On sera en compagnie. Ça sera la dernière de l'année pour La Causerie. Alors, pas qu'on ne voulait pas être là le 24. On a bien envie, enfin vous le savez certainement si vous nous écoutez régulièrement, dans ces moments de fête où tout le monde se rassemble et que les gens sont tout seuls, on aime être ici. Par contre cette année, on laisse notre créneau à une émission qui sera axée de 20h à minuit aux prisonniers, prisonnières, pour laisser des messages, etc. Donc vraiment une superbe initiative et qui n'est pas que Radio Canu, il y a 4 ou 5 radios au moins qui sont dans ce projet-là et c'est vraiment bravo, génial parce que...
Et ça s'appelle Zonzonde.
C'est ça, si on était là le 24, c'était un peu pour toutes ces personnes-là, même si on n'a pas non plus, enfin on se donne pas une importance qu'on n'a pas, mais voilà, c'est aussi important d'être là pour toutes les personnes qui sont isolées.
Et c'est avec plaisir qu'on laisse notre créneau.
Mais par contre, la semaine prochaine, donc le 17 décembre, on sera là et en compagnie de Mathieu et de Pierre pour
deux apôtres.
C'est ça, c'est pour préparer la venue du petit Jésus.
Plus sérieusement,
c'est pour causer du numéro de décembre des rues de Lyon. Alors oui, Mathieu, vous le connaissez, c'est Mathieu Rebière. Ça fait la 10e fois qu'on le reçoit.
Et en fait, il
vient nous parler donc du numéro de décembre qui est axé sur le Capotier. On vous en dit pas plus. Le Capotier, les rues de Lyon. Pierre, Mathieu, c'est La Causerie de dimanche prochain. Et le reste, vous découvrirez dimanche prochain à 22h sur l'antenne de Canu. Et on se quitte en musique. Et c'est Clara qui annonce le titre.
Oui, et c'est Sian Potak avec Kuambali Sana.
Ça, et c'est vachement bien.
Et ben nous vous donne rendez-vous dimanche prochain.
Oui, des bisous
à
dimanche.
Ciao.
Ciao. Take me.